franceinter.fr.
Allez, c'est parti.
Le débat de midi. Thomas Chauvineau.
Ni Ian Fleming, ni John le Carré n'y ont pensé, mais avec la fin de la guerre froide, il a bien fallu qu'ils se recyclent, les espions. Alors bien sûr, le théâtre des opérations est moins glamour, on ne passe plus d'Istanbul à Berlin en voyageant en première classe, non. Aujourd'hui, le théâtre des opérations, c'est le monde de l'entreprise. Ça a commencé avec les cadres, qu'on surveille pour être sûr qu'ils n'aillent pas vendre les secrets industriels aux concurrents, les mails lus, le téléphone écouté, et pourquoi pas, quelques micros dans les bureaux, les exemples ne manquent pas. Et puis, la surveillance est étendue aux salariés, plus modestes, des caissiers dont les moindres déplacements dans les grandes surfaces sont filmés aux routiers géolocalisés en temps réel, en passant par le syndicat qu'on infiltre carrément, j'ai bien dit qu'on infiltre exactement comme dans le film. Et si Ian Fleming était encore de ce monde, ses romans s'appelleraient aujourd'hui L'espion qui venait du bureau d'à côté. L'entreprise est-elle sous surveillance? C'est le menu de notre débat de midi. Et avec nous pour en débattre ce midi, Pierre-Antoine Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été chef de cabinet du directeur général de la DGSE, donc nos services secrets, enfin anciennement les services secrets. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise de gestion de risque, Arnaud Pelletier, bonjour. Vous êtes bonjour. Dirigeant de l'agence Le Privé, société d'enquête pour les particuliers et les entreprises, on y vient. François Bernard Huyck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS sur ces questions. Et puis enfin, en duplex de Montpellier, merci d'ailleurs aux techniciens de France Bleu Hérault, Roger Pouilly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, donc délégué CGT d'un grand magasin de meubles que tout le monde connaît, qui s'est retrouvé au cœur d'une affaire, là pour le coup, à laquelle même John Le Carré n'avait pas pensé. On y reviendra évidemment au cours de l'émission. Alors c'est vrai, donc il y a eu l'affaire IKEA, l'affaire Renault, donc le numéro 2 vient d'ailleurs tout juste de démissionner, mais il y a aussi Molex, Léo, Areva, sans compter toutes les caméras de vidéosurveillance, comme je le disais au début, dans les coulisses des grandes surfaces. Est-ce que l'entreprise est aujourd'hui plus surveillée qu'avant? L'espionnage industriel, on connaissait déjà. Ce qui me semble un peu plus neuf en la matière, c'est l'espionnage des salariés et en effet des syndicats, non? Arnaud Pelletier.
Est-ce que ça n'a pas toujours existé?
Je ne sais pas. Est-ce que vous faites aujourd'hui plus de particuliers que d'entreprises, puisque vous travaillez,
moi, je
vous avez une agence qui s'appelle Le Privé,
à la fois moitié.
Mais il n'y a pas eu d'augmentation de l'un
non,
pour l'autre.
C'est-à-dire qu'il faut bien faire la part des choses, une petite définition sémantique, entre l'espionnage et le renseignement. Ce sont deux choses différentes. Quand on parle des affaires que vous avez évoquées tout à l'heure, on parle d'espionnage. Donc on parle de techniques illégales. On parle de quelque chose qu'il ne faut pas faire et qui est répréhensible de par la loi. Le renseignement d'entreprise est quelque chose qui se pratique de façon légale. Je vais vous donner quatre termes qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour bien...
Ça fait beaucoup déjà, quatre termes.
Non mais quatre termes, c'est important parce que c'est là que va se situer la ligne à ne pas franchir. Une enquête, il faut qu'elle soit légale, légitime, loyale et proportionnée. À partir du moment où on respecte ça, on s'éloigne de l'espionnage... Et on est dans le renseignement d'entreprise qui est sain. Je veux dire, les entreprises doivent faire du renseignement pour peut-être conquérir de nouveaux marchés, pour peut-être se prémunir contre de l'espionnage des autres qui vont venir chez eux.
Alors, par exemple, on parlait d'infiltration tout à l'heure. Proposer vos services pour que l'un de vos employés se fasse passer pour un caissier dans une grande surface, ça c'est quelque chose d'illégal, donc on ne le fait pas.
Exactement, c'est quelque chose de complètement illégal, quoique, dans certains cas... Par exemple, je vous donne un exemple des vols en entreprise. De l'infiltration, à partir du moment où il y a toute une procédure, il faut informer le comité de direction et ainsi de suite, et notamment les syndicats, mais de mettre en place un système pour trouver une fraude d'une organisation de vol dans l'entreprise, on peut le faire. Vous voyez, donc la limite, elle est toujours sur les quatre termes que je vous ai dit tout à l'heure. En revanche, dans l'affaire IKEA, pour ne pas les citer, c'était clairement quelque chose qu'on ne devait pas faire. Allez.
Le débat de midi, Thomas Chauvineau.
D'espionnage, il est donc question aujourd'hui comment les techniques utilisées naguère par James Bond sont utilisées aujourd'hui pour espionner les salariés. Quand je dis les techniques, donc ça va en effet de l'infiltration, on a commencé à l'évoquer mais on va y revenir, en passant par les mails qu'on peut fouiller avec des spyware, les téléphones également. Elles sont nombreuses ces techniques.
Rien.
Et est-ce qu'on peut facilement avoir accès à ces données aujourd'hui, Arnaud Pelletier, de l'agence Le Privé?
Moi je pense que le vrai sujet il est là et le vrai danger il est là. Et le danger, il n'est pas spécialement... Alors là, on parlait un peu, le thème, c'était dans l'entreprise. Hein. Les États, c'est autre chose. Mais si on reste dans l'entreprise...
On reste évidemment dans l'entreprise.
C'est pas forcément le patron qui espionne les salariés ou les salariés qui espionnent le patron, ça marche dans les deux sens. C'est monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, pour 40 euros sur Internet, vous téléchargez des logiciels d'espionnage qu'on met dans un iPhone, un BlackBerry, et ainsi de suite. Il y en a sur 10 qu'on va télécharger, il y en a 8 qui ne marchent pas, mais il y en a quand même 2 qui fonctionnent. Et là, le danger, le vrai danger, il est là, et il y a une espèce de prise de conscience à avoir avec le web, ce qu'on appelle le web 3.0, le web social interactif, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, et ainsi de suite, où tout le monde sait tout sur tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant de me soucier sur ce que je protège et est-ce qu'on m'espionne, est-ce que moi, je donne peut-être pas trop d'informations?
Et d'être prudent, en effet, de pas trop renseigner aussi bien sur
sachant
ses,
qu'un
sur
compte LinkedIn, quelqu'un qui sait faire, il va le craquer. Là, il y a une semaine, il y a 600 000 comptes LinkedIn qui ont été mis sur Internet. Donc, il faut faire attention à tout ça, et le vrai danger de la protection de la vie privée, il vient par le biais de cette technologie qui, avant, était réservée à une élite des services.
Mais alors, la question, c'est que vous faites pas de l'espionnage, j'ai bien compris, du renseignement. Vous êtes contacté par une entreprise qui vous demande d'obtenir des renseignements. Quels sont les moyens que vous avez à votre disposition?
Alors, principalement, la loi est claire.
J'entends bien les moyens légaux.
Non,
allez-y.
Je vous ai bien dit, voilà. Il y a la filature, dans certaines règles, et c'est très encadré. Il y a, depuis le 1er janvier de cette année, un organisme d'État qui s'appelle le CNAPS, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, qui surveille et contrôle tout ça. C'est pas un hasard, hein, si. Et ça fait à peu près 10 ans que tout ça se met en place. C'est-à-dire qu'on est en train de vraiment... La France est un des pays les plus protecteurs de la vie privée. Donc il y a la filature, la surveillance des personnes, mais en aucun cas, aller pirater une boîte mail ou des choses comme ça, ça ne se fait pas. Et puis après,
ça se fait.
Oui, mais ça se fait pas dans une activité professionnelle réglementée, ça se fait pas. Quand on est dans la magouille, parce que c'est de la magouille dont on parle, là, ça peut se faire, et on n'attend pas des sociétés.
Dis pas, ça n'existe pas, je vous dis que c'est débile.
Arnaud Pelletier.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec M. Lorenzini sur ce qu'il vient de dire, mais lui, il se place évidemment, parce que c'est son passé professionnel, et ainsi de suite, il se place d'un point de vue d'un État. Quand on se place d'un point de vue...
Un ancien de la DGSE,
voilà,
je précise.
Et c'est là la différence entre le privé et le public, c'est pas la même chose. Même si la segmentation de l'information blanche, grise et noire, c'est-à-dire opaque, est la même. Pour une entreprise, vous disiez tout à l'heure, mais que fait une entreprise quand elle fait du renseignement? C'est principalement dans de la défense. Je vous donne des exemples simples. C'est pas pour attaquer, bien souvent c'est pour se défendre. Je suis patron de PME, j'ai un de mes cadres que je soupçonne vendre de mon fichier client à un concurrent parce qu'il a un gain financier à le faire. La DCRI, elle traite pas ça. Parce que ça, c'est la petite PME du coin.
Donc l'État ne traite pas ça,
la DCRI gère la défense nationale. Et donc là, ce patron de PME, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il n'a pas 50 solutions. Soit il bidouille lui-même et il risque de se mettre dans l'illégalité parce qu'il ne maîtrise pas la loi, il ne maîtrise pas la technologie, il va faire un peu n'importe quoi. Soit il s'adresse à des sociétés qui sont réglementées, qui existent, qui vont bien faire leur boulot, qui vont vérifier de façon proportionnée est-ce que c'est vrai ou pas. Et derrière, il ne faut pas oublier que le but du jeu, c'est d'aller devant le tribunal. C'est qu'on a un rapport... Tout est transparent et il y a un juge qui va trancher en disant « Oui, effectivement, ce salarié a vendu de l'information à la concurrence. Et dans ce cas, je peux, moi, chef d'entreprise, prendre, par exemple, le licencié, porter dommages et intérêts, ainsi de suite. » Donc c'est dans ce sens-là, c'est principalement de la défense. Après, l'acquisition de renseignements pour aller, entre guillemets, à de l'attaque concurrentielle, c'est beaucoup plus réservé à des grosses sociétés et on n'est pas dans l'espionnage, on va être plus dans l'intelligence économique, où là on est dans des notions de stratégie et la pratique dont a parlé M. Lorenzini tout à l'heure, ça s'appelle l'élicitation. Le fait de faire parler quelqu'un, c'est légal. C'est-à-dire qu'il est bien plus simple d'aller voir quelqu'un et de l'interviewer, vous êtes journaliste,
oui,
il va vous dire des choses plutôt que d'aller lui voler.
Certains de vos confrères n'hésitent pas à se faire passer pour des journalistes pour plus facilement obtenir les informations.
Interdit.
Est-ce que ça,
interdit.
On est dans la légalité
ou pas ? Usurpation d'identité.
Pourtant, ça se fait.
Mais les feux rouges, il y a des gens qui les grillent. Tout se fait. Maintenant,
excusez-moi.
C'est interdit.
Oui, Roger Pouilly, de la CGT.
J'ai entendu la notion de proportionné. J'aurais aimé avoir quelques précisions là-dessus. Parce que moi, chez IKEA, par exemple, ce qui s'est passé, je ne vois pas où est la proportion, je ne vois pas où est la mesure. Et vous parliez de défense aussi. Nous, les salariés, on l'a vraiment vécu comme une attaque, parce que je ne vois pas en quoi on pouvait faire du tort à l'entreprise.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur, et c'est ce que disait monsieur Lorenzini tout à l'heure. C'est débile, c'est-à-dire que ce qu'a fait IKEA est complètement... On ne comprend pas. Alors, on va peut-être comprendre plus tard, mais pour l'instant, on ne comprend pas. Parce que là, il n'y a pas de notion de proportion, il n'y a pas de notion de légalité, il n'y a pas de notion de légitimité, et il n'y a pas de notion de loyauté. Donc, on a tout faux. Et vous avez tout à fait raison. On n'est pas du tout dans du renseignement ou dans... enfin, on est dans de l'espionnage. C'est-à-dire, on a tout faux.
Si tout cela est vrai, car nous devons parler au conditionnel, parce que cette affaire n'a pas été jugée. Mais enfin, bon, tout ça semble assez vraisemblable.
A priori. Allez, je vous rappelle qu'on attend vos réactions par mail sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux, le débat de midi ou encore au 01 45 24 7000. Tout ça, évidemment, dans la stricte
destruction des données confidentielles.
Vous, ce que vous faites, Arnaud Pelletier, j'ai lu ça dans les témoignages que vous proposez, ça s'appelle le dépoussiérage. Alors là encore, c'est un nom un peu secret. Qu'est-ce que c'est que le dépoussiérage ?
Ça, pour le coup, c'est un terme qui vient des services officiels, mais qui se fait aussi de façon privée. C'est donc principalement sur des grandes entreprises et sur les cabinets de direction où on pense qu'il y a des micros qui ont été installés par la concurrence ou par une tierce personne. Et avec du matériel technique où on va détecter principalement des ondes, on va trouver ces micros pour rendre la pièce complètement opaque et pouvoir discuter de décisions stratégiques sans qu'une tierce personne soit au courant. Ça se fait dans 90% des cas pour des sociétés, parce que ça coûte assez cher, et quelquefois pour des particuliers. Il faut noter que dans 75% des cas, il n'y a rien.
Ce sont juste des allégations ?
Non, c'est de la parano.
C'est un doute.
C'est un doute, mais pour en avoir le cœur net, on va faire que, voilà, moi, c'est mon expérience, dans le domaine privé, je ne parle pas au niveau de l'État, c'est complètement différent, mais dans le domaine privé, on trouve dans 25% des cas, et dans 75% des cas, il n'y a rien, et c'est une parano qui s'installe, ce qui répond peut-être à votre question de tout à l'heure sur ce climat de parano.
Moi, je n'aime pas le terme de parano, parce que on peut après tomber dans l'excès où on considère que chaque fois se protéger, c'est de la parano. Et j'ai vécu ça lorsque j'étais au service de l'État. J'ai vécu ça notamment avec, ça ne va pas leur faire plaisir, mais tant pis, avec les diplomates, qui sont des gens qui sont habitués à discuter, qui sont assez mondains, qui voient beaucoup de gens dans les cocktails, qui discutent, c'est leur boulot. Leur boulot, c'est de mettre du liant. Et chaque fois qu'on leur disait, mais attention aux télégrammes diplomatiques, attention à la façon dont vous communiquez, attention à qui vous parlez, etc., chaque fois, ils nous disaient, mais vous, les mecs de la DGSE, vous êtes des parano, de toute façon, tout c'est sur la place publique. Non, tout n'est pas sur la place publique. Et encore une fois, la technique du renseignement, c'est pour prendre une image pour nos auditeurs, la technique du puzzle. C'est-à-dire, par exemple, moi, je m'intéresse à monsieur Thomas, à un certain monsieur Thomas Chauvineau. Alors, je vais commencer par taper sur Google. Il se trouve que sur, je sais qu'il s'appelle Thomas Chauvineau et je sais que il a peut-être 42 ans. Ouais, je sais rien de plus et qu'il est brun. Voilà. Et je vais taper sur Google. Il va, dans la ville de Paris, il va peut-être en sortir 80. Sauf que si je fouille un peu et que je m'aperçois qu'il n'y en a que 3 qui ont 42 ans, je restreins tout de suite ma recherche à ceux qui ont 42 ans. Et ça, le fait d'aller chez une concierge, je lui dire « Mais monsieur Chauvineau, il faudrait que je le voie, etc. Ce monsieur... » Oui, mais on parle bien du même, c'est un monsieur qui a 40-42 ans, qui est brun, elle va dire « Oui, je dis ok, c'est le bon. » Donc c'est une façon de restreindre ce qu'on appelle cette espèce d'entonnoir où on va trier le renseignement, parce que sinon, c'est beaucoup de moyens à déployer, donc c'est beaucoup de temps de perdu. Et ça... Pour une personne qu'on va interroger, le fait de dire que vous êtes brun, que vous êtes blond, que vous êtes un homme, une femme, que vous avez 42 ans ou 25, elle n'a pas l'impression, cette personne, de donner un renseignement qui risque de vous nuire. Sauf que pour la personne à qui il manque le petit élément du puzzle, pour lui, ça peut être stratégique.
Oui, mais à quoi sert cet élément du puzzle ? On parlait de parano à l'instant. Est-ce que vous pensez, Arnaud Pelletier, que vous avez de plus en plus de clients paranoïaques aujourd'hui ?
Non, mais je suis d'accord à ce qui vient d'être dit. Évidemment, il ne faut pas dire que tout le monde est parano et du coup plus protégé. Alors, on va recadrer sur le domaine économique de l'entreprise. Mondialisation, crise financière, les affaires sont difficiles et les concurrents, français ou étrangers, vont pas hésiter à utiliser des moyens, pas toujours légaux. Il faut se protéger. Il se trouve que, pour répondre à votre question de tout à l'heure, vous disiez, mais pourquoi faire tout ça ? Pourquoi ? En fait, moi, je pense qu'on a des moyens de protection qui sont légitimes et on doit les mettre en place pour protéger les intérêts de la nation. Parce que les intérêts de chaque PME, ce sont des sous-traitants de grosses sociétés et finalement, c'est l'intérêt de la nation.
Oui, mais est-ce qu'on fait de plus en plus appel à vos services pour faire du dépoussiérage, par exemple, comme vous l'avez expliqué ?
C'est assez constant. Mais ce que je veux dire, c'est que la technique est là. Et c'est l'utilisation, le détournement d'un système de protection qui est plutôt sain à la base, qui va être détourné de son but. Et là, on va franchir la ligne et on va aller dans peut-être l'espionnage tel que les affaires dont vous avez parlé. Maintenant, non, c'est assez constant. Il n'y a pas d'augmentation en ce moment. Je dirais, moi, que c'est même plutôt l'inverse. Toutes ces affaires-là qui sortent au niveau média, vous vous doutez bien que le rapport bénéfice-risque dont on parlait tout à l'heure, il est catastrophique pour Ikea, Renault et ainsi de suite. Dites-vous bien que le prochain PDG, là, quand on va lui parler de faire ce type de magouille, il va peut-être y réfléchir. Alors souvent, c'est pas le PDG, hein, c'est le N-2, le N-3. Il va peut-être y réfléchir à deux fois. Donc moi, je pense que c'est même plutôt l'inverse, c'est que ça sort médiatiquement aujourd'hui. On en parle beaucoup sur des pratiques qui ont été faites depuis des années. La législation est en train de se resserrer et je pense que ça va plutôt aller en s'arrangeant, à mon sens.
Excusez-moi.
Oui, Roger Pouilly, la CGT.
Parce que là, je suis face à des spécialistes un petit peu, donc j'aimerais avoir votre avis et savoir si ce qui se serait, on va parler au conditionnel passé chez IKEA, vous en avez déjà eu vent pour d'autres entreprises, si on a déjà voulu faire appel à vous pour ce type de choses, parce que nous, clairement, à la CGT, IKEA, et puis même l'ensemble des salariés, on n'a pas l'impression que c'est de la parano d'IKEA, on a l'impression que c'est une volonté de contrôle, de tout contrôler, d'avoir la main mise sur tout, et de toute façon, clairement... On suppose que ça a été utilisé aussi pour pouvoir faire du ménage dans l'effectif, virer des gens...
Mais qui existe aussi.
Je vais quand même juste répondre à la question. La question était posée, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Ça fait 10 ans que je fais du renseignement pour entreprise. Pas une fois. Alors moi, je suis spécialiste des PME. Donc c'est un peu différent de ces grosses structures. Hein, mais pas une fois, j'ai eu une demande ciblée sur du jamais. Ce qu'on me demande, c'est voilà, j'ai une peur que mon information fuite, j'ai peur que mon concurrent ceci, j'ai peur d'une attaque, j'ai peur qu'il y ait des micros dans mon bureau de patron, j'ai mon salarié qui travaille au noir à la concurrence, c'est ça qu'on me demande. De faire ce qui a été fait, ou avec les guillemets qu'on se doit de mettre, voilà, pour répondre à la question, en 10 ans d'exercice, personne ne m'a demandé ça.
Bah, sur les guillemets qu'on se doit de mettre, il y a l'affaire d'une employée. Là, pour le coup, ça a été jugé au prud'homme, donc on peut en parler. L'entreprise a réussi à obtenir ses visas, ses dates d'entrée et de sortie sur un territoire étranger, c'était au Maroc en l'occurrence, a réussi à obtenir ses coordonnées bancaires. Enfin, comment on s'y prend pour faire ça?
Bah, c'est de la magouille. Point final, voilà, interdit, illégal.
C'est de la magouille.
Comment ça a été donné par quelqu'un qui n'aurait pas dû légalement leur donner.
On a répondu tout à l'heure, quoi. Il y a une personne qui a accès à l'information, qui travaille principalement pour l'État, parce que c'est, voilà, ça vient de là. Et puis, ben, il y a, alors, dans le meilleur des cas, du copinage, dans le pire des cas, du recel. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, l'information, il faut bien qu'elle soit quelque part. Donc après, il y a certaines informations qu'on peut arriver légalement à aller chercher avec les techniques d'élicitation dont on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, un fichier de police. Celui-là, si on y accède, bah, on n'est pas bon. Et c'est a priori ce qui s'est passé.
Est-ce qu'on peut aussi se demander si... alors, il n'y a pas de surenchère, peut-être, pas d'augmentation, en tout cas, de clients d'entreprises qui viendraient savoir si... Enfin, qui voudraient savoir si, oui ou non, leurs salariés font bien leur travail. Mais est-ce qu'il y a... La surenchère, en tout cas, elle est au niveau de la technologie. On a de plus en plus d'outils à disposition. Est-ce que, du coup, cette surenchère d'outils n'influence pas aussi la surenchère d'espionnage ou de recherche de renseignements?
Tout à fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les outils aujourd'hui, ce qui était réservé aux services secrets il y a 20 ans, aujourd'hui est accessible à Madame Michu. Sans même parler de société, hein. Un particulier lui-même, dans le cadre de la famille, on fait aussi des dossiers pour des particuliers, dans le cadre de la famille, il peut y avoir de l'espionnage, dans le cadre des parents avec leurs enfants, un mari avec sa femme. Et en fait, cette technique-là, on la retrouve aussi dans l'entreprise. C'est un peu lié à la nature humaine. À partir du moment où on met le jouet, le petit gadget qui va bien, et ben, des fois, on se brûle un peu les doigts. Et je pense effectivement que les TIC, hein, les technologies de l'information et de la communication, se développant, et ça va aller en augmentant. La géolocalisation, on n'en est qu'au tout début. Et ça va aller, il y a des techniques marketing aujourd'hui de géolocalisation qui vont se développer, mais c'est nous tous, avec nos téléphones portables. Donc, en fait, il y a une vraie éducation de tout le monde. Les gens, je pense, font moins attention à leur vie privée que dans le passé. Avant, il y avait la guerre, il y a eu plein de choses qui font que, voilà, les gens apportaient de l'importance à la vie privée. Aujourd'hui, on fait peut-être un peu moins attention, il va falloir se reposer des questions, il y a un choix de société.
Eh bien, merci à tous les quatre d'être intervenus aujourd'hui dans le débat de midi. On retrouve vos biographies et bibliographies sur le site internet de l'émission franceinter.fr. Le débat de midi, c'est un travail d'équipe. Céline Hillet à la réalisation, Julie Verne est l'assistante avec Alix Moreto et Anna Tardivelle. Jean-Baptiste Audibert choisit les disques et la technique ce matin, Philippe Duclos et Grégory Wallon. Et puis, ça continue demain en partenariat avec le journal Express, on parlera mafia à l'occasion des 20 ans de la mort du juge Borsalino. Et là encore, elle a bien changé la mafia, on est loin du parrain.